Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur la Radio Mondiale. Une Radio Mondiale qui vous a réservé une belle surprise aujourd'hui parce qu'il est revenu nous voir, il est revenu vous parler aussi à vous tous. Habib Bey est notre invité aujourd'hui.
Bravo, 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 bravo.
Merci beaucoup pour l'accueil. En tout cas, c'est un grand plaisir d'être là avec vous. Vous savez à quel point j'aime RFI et vous savez à quel point j'ai passé de bons moments ici. Donc, c'est toujours un plaisir de revenir vous voir.
10 ans, vous êtes resté avec nous, Habib, d'une façon régulière. Mais je peux vous le dire, les auditeurs, vous leur manquez tellement.
Moi aussi.
Il y a des cartons de temps en temps. Ouais, pour le Red Star, ce qu'ils font et tout ça.
J'espère qu'ils nous mettent des cartons rouges ici de temps en temps.
Alors, c'est pas arrivé, mais peut-être que ça arrivera un jour. En tout cas, évidemment, Habib Bey, c'est l'homme du Red Star, celui qui vient de le mener de National en Ligue 2. C'est une promotion pour le club, c'est aussi une promotion pour Habib Bey. Une étoile rouge le guide et il va nous raconter donc sa vie d'entraîneur et puis le début d'une carrière peut-être très prometteuse. On est tous objectifs ici, on est sûr que cette carrière sera absolument magnifique. Nous essaierons d'évoquer aussi d'autres sujets. On parlera de ce duo magique du PSG, insatiable, double buteur hier soir à Lorient. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont-ils devenus l'arme fatale des Parisiens à temps, en tout cas, nous semble-t-il, pour cette fin de saison où tous les rêves sont permis. C'est Queda, on va voir l'espagnol tous, j'espère. Xavi reste parmi les Blaugrana. Le président du Barça a conforté ce matin Xavi à son poste, qui est donc revenu sur sa décision de quitter le club de la Catalogne en fin de saison. Est-ce une bonne décision? Il y a d'autres personnes donc autour d'Habib Bey aujourd'hui, parce qu'on lui fait la cour aujourd'hui, une cour de bienvenue à Habib Bey. Bonjour Salim Bongali.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous. Et Habib Bey, c'est une sorte de Benjamin Button. Plus il avance, plus il rajeunit quand même.
Mais vous avez son look aujourd'hui, la petite barbe.
Il n'y a que Habib Bey qui a Habib Bey.
Je parlais d'apparence, de poils. Bonjour Chérif Guémour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous êtes un fidèle du Stade Bauer.
Je commence à l'être.
Oui, voilà.
C'était très bien.
Hervé Penaud, bonjour.
Bonjour, mais quel plaisir d'être en votre compagnie. Alors, je suis très content de revoir ce Habib, mais voilà, souriant comme ça. Parce que je le vois plus qu'à la télé maintenant. Et sur son banc. Bravo, en tout cas, félicitations. Merci, parce que mine de rien, ce qu'il a réussi à faire en 2 ans, chapeau.
David Finzel m'a aidé à préparer cette émission. Mathieu De Gueldre est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
L'année dernière, on a pleuré ensemble à la dernière journée parce qu'il nous manquait 2 points pour monter.
Peut-être la montée du Red Star en Ligue 2.
Franchement, on a confiance en notre équipe, on a confiance en Habib Bey. Ça va le faire.
Parce que ce club le mérite.
C'est bon, c'est fait, c'est magnifique.
C'est la Ligue 2.
On est fiers, on est fiers de la saison. On est fiers d'avoir mis l'étoile du Red Star.
C'était la fête vendredi soir autour du Stade Bauer à Habib Bey. Alors on vous a entendu, une aventure épique on va dire. Et pour l'un des 3 grands clubs de Paris quand même. Parce qu'à Paris on a le Paris Saint-Germain en Ligue 1 qui écrase un peu tout, y compris dans les médias. Mais on a aussi le Paris FC qui joue du côté de Charletti et qui est en Ligue 2. Et puis donc le Red Star de Saint-Ouen qui est une ville limitrophe au nord de Paris. Connue surtout pour les puces, n'est-ce pas? Mais aussi pour son stade, le Stade Bauer. Et puis cette fameuse étoile rouge qui brille au milieu d'un blason vert et blanc. Le Red Star revient donc parmi les clubs de l'élite française. Vous l'entraînez depuis 3 saisons, enfin de 2,5 ou de 3/4. Le club jouera en Ligue 2 l'année prochaine, après toute une année pratiquement en tête de National. C'est un sacré parcours, Habib, et on se dit... comment vous l'avez vécu, vous, de l'intérieur? Comment un groupe voit venir? Alors, peut-être, je connais vos penchants et je sais qu'il n'y a pas de perdant magnifique, n'est-ce pas? On a retenu la leçon à Radio Foot. Pourtant, on a l'impression que c'est dans cette défaite l'année dernière, c'est-à-dire à 20 minutes d'une promotion en Ligue 2, que vous avez peut-être puisé la force de faire un si beau parcours cette saison.
Oui, je pense qu'il était important de garder de la continuité, surtout dans ce qu'on avait vécu depuis un petit peu plus d'1 an et demi lorsqu'on a vécu ce traumatisme. Parce que Le vivre avec son groupe, c'est ce qu'il y a de plus difficile parce que vous êtes en fait aux portes de l'objectif. On a été 20 minutes en Ligue 2 sur le dernier match de la saison lorsqu'on gagne 2-0 contre Saint-Brieuc. Et puis, en quelque sorte, c'est ce qu'on s'est dit, on saute en fait en l'espace d'un instant. C'est-à-dire que
ça dépendait plus de vous.
Hein. Ouais, voilà, ça dépendait pas de nous. Et après, vous avez, lorsque vous êtes coach, et je pense que tous les coachs ressentent ça, c'est que j'avais l'impression en fait de porter la responsabilité tout seul de tout un club, de gens qui voulaient retrouver le très très haut niveau, d'un club qui se transforme et qui est un club magnifique. Vous avez parlé de l'histoire du Red Star, mais c'est un club qui a gagné 5 Coupes de France et je pense que Chérif le sait. Lorsque vous arrivez dans un club comme ça, et c'est aussi pour ça que je l'ai pris il y a 2 ans et demi, oui. C'est que c'est un club à part pour moi. C'est un club avec une identité.
Et
ça ressemblait avec ce que j'avais connu en tant que joueur avec Strasbourg, avec l'OM, ou même avec Newcastle, où je suis arrivé dans des clubs mythiques avec une histoire incroyable, où le poids de l'histoire, on en parle pour des très grands clubs, mais vous le ressentez quand même. Et on a vécu ce traumatisme-là, et la cicatrice a été béante, clairement, puisqu'on a mis beaucoup de temps, en tout cas pour ma part, j'ai mis beaucoup de temps à repartir dans le projet. J'ai mis 3 semaines et demie à me prononcer pour finir ma dernière année de contrat. Et quand on est reparti, on a eu 6 semaines où on a été dans un trou presque le même que la saison d'avant, où pendant la préparation, ça a été très difficile parce qu'on n'arrivait pas en fait à créer une forme d'émulation autour de cette ambition d'aller chercher la Ligue 2. On vivait sur le traumatisme,
recommencer à zéro, finalement.
On vivait sur la cicatrice et à un moment donné, on a été obligé de renverser la table parce qu'on savait qu'on allait dans le trou. Quand on perd à la 3e journée contre le promu Gaulle et qu'on en prend 3, on prend une sacrée claque. Et ce jour-là, j'ai renversé la table avec mon staff, mais également avec les joueurs. Et on a eu une réunion et on s'est dit les choses. Et on s'est dit, c'est un club dont il faut changer l'histoire, en quelque sorte, parce que ça faisait 5 ans qu'il était en National. Et c'est surtout des joueurs qui doivent aller vivre autre chose parce que le National, et tout le monde le sait ici, c'est pour moi semi-amateur. Ce n'est pas encore un championnat professionnel. Là, leurs vies vont changer.
C'est amateur de haut niveau, selon la définition.
Oui, c'est un amateur de haut niveau, mais vous avez des contrats qui durent 1 an, voire 2. Des salaires qui sont entre 1500 et 8, 9, 10 pour les mieux payés. Et la réalité, c'est qu'avec ça, c'est une vie de joueur professionnel, mais sans vraiment l'être. Vous n'avez pas de perspective, vous ne pouvez pas vous projeter. Et moi, ce que je leur ai dit à ce moment-là, après cette défaite, c'est que je leur ai dit, avec le staff, en fait, mon ambition, c'est de changer vos vies. Parce que vous devez vous rendre compte à quel point c'est exceptionnel d'avoir vécu ce qu'on a vécu l'an passé. Et surtout, je les ai mis face à leurs responsabilités. Et je leur ai dit, face à vous, vous avez un entraîneur de National. Pas plus, pas moins. Et vous êtes tous des joueurs de National. Il n'y a aucune personne dans cette salle qui mérite d'être en Ligue 2 parce qu'on a sauté à 2 points. Et s'il y a 2 équipes qui sont en Ligue 2 aujourd'hui, donc Concarneau et Dunkerque, c'est qu'ils l'ont mérité plus que nous. Et s'ils ne sont pas capables de l'entendre, et si nous, on n'était pas capables de l'entendre, eh ben, on n'avait rien à faire en fait, dans une saison où on avait des ambitions très élevées. Et derrière ça, on fait 7 victoires de suite et on prend le leadership du championnat à la 4e journée. Et en fait, quand on a surfé sur cette force-là, sur cette confiance-là, mais aussi sur la cicatrice,
finalement.
De dire, les gars, il ne faut pas que ça s'ouvre, hein, parce que ça fait mal. Et ça atteint les hommes humainement. Et en fin de compte, on a avancé avec cette responsabilité de regarder des gens qui ne voulaient qu'une chose, et à l'image des images, du son que vous avez, que vous avez mis là, c'est exceptionnel en tant que staff, parce que je dis bien staff, on parle souvent des entraîneurs, mais j'ai un staff qui est derrière moi. On a fait un travail fantastique, ils ont fait un travail fantastique, il faut surtout féliciter le moteur de tout ça. C'est qu'on monte parce que j'ai des très bons joueurs aussi.
Oui, évidemment. Ouais. Habib, vous êtes promu, mais pas encore champion.
Non.
Il reste 4 journées.
Ouais.
Niort est à 10 points.
Ouais.
Ça veut dire que vous le voulez quand même, avec vos hommes, ce titre de champion.
Ah bah
de
non,
Ligue
on les a pas lâchés.
Hein.
Aujourd'hui, ils ont travaillé comme si rien n'était acquis. Et je pense que ça fait partie de l'éthique de travail qu'on a fixée il y a plus de 2 ans et demi. On a vraiment tout changé sur la méthodologie d'entraînement. On est arrivé avec une influence qui était la mienne, c'est-à-dire de ce que j'avais connu en Angleterre. Et pour moi, l'équipe était sous-entraînée à ce moment-là. Et on a mis en place des méthodes d'entraînement qui ont fait que ce groupe est devenu un groupe compétitif qui avait cette envie en fait, de marcher sur le championnat. Ils en ont fait une quête, en quelque sorte, personnelle et collective. Et ce qui est assez incroyable, c'est que maintenant, il y a ce titre à aller chercher. On est en Ligue 2 sur une défaite.
Oui.
Cette équipe, depuis 2 ans, n'a pas perdu 2 fois de suite. Donc, il faut qu'on soit en capacité d'aller chercher le titre dès lundi contre Nîmes. Mais il peut arriver si Niort ne gagne pas contre Martigues. Mais j'aimerais qu'on aille le chercher. J'aimerais bien que Niort gagne et que nous, on aille le chercher et qu'on ne nous le donne pas, en quelque sorte.
Oui, parce qu'en plus, cette promotion, effectivement, vous l'avez obtenue en dépit d'une défaite ce soir-là.
Exactement.
À Bauer. Mais bon, évidemment, la promotion effaçait un peu le résultat contre Dijon. Chérie, vous aviez une question, vous, l'habitué de Bauer.
Oui, la question, je la posais à la fin, mais je voudrais quand même rappeler que le National, c'est une division extrêmement dure. les équipes se battent, il y a beaucoup d'équipes qui se battent, c'est bloc contre bloc, il y a très peu de mouvement. C'est très difficile justement, de, quand on s'appelle, d'imprimer une identité de jeu tout en sachant qu'il y a un marquage très serré, il y a des blocs contre blocs, les équipes sont à peu près correctement préparées. Donc l'équipe du Red Star a très peu perdu, c'est aussi une des clés de la réussite. Mm-hmm. Vous êtes à 4 défaites, je crois que le deuxième et le troisième, après c'est 8 défaites, 10 défaites et tout. Donc il y a aussi tout un impact au niveau de la comptabilité, il faut perdre le moins possible. Si on ne gagne pas, il faut perdre le moins possible. Et c'est vraiment, on ne dit jamais assez que c'est dur de monter de National à Ligue 2 et de Ligue 2 à L1. Par moment, on a l'impression que c'est plus facile de rester en L1 que de monter en L1. Et la dernière chose, alors c'est une question, Habib, est-ce que le fait que bon, cette année, Saint-Ouen est ville olympique, avec tout le pétillement, toute la dynamique qu'il y a, est-ce que ça vous a inspiré aussi
Alors, dire qu'on y a pensé, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une ville, c'est un département, c'est une ville et c'est un département qui est vraiment en mouvement. C'est-à-dire que pour moi, c'est un petit peu un poumon de Paris endormi, mais qui commence à se réveiller, et la perspective des Jeux Olympiques amène encore plus de vie en fait, dans cet endroit qui est génial. En fait. Les Puces, on a tous connu quand on était jeunes, le club et le stade enclavé comme ça en pleine ville, mais... Tu ressens quand même cette énergie autour des infrastructures. Nous, par exemple, là où on est, ça va être une infrastructure des Jeux Olympiques, en tout cas.
Le
village olympique. Ouais, on va avoir, là, il y a la piscine qui est juste à côté, le centre d'entraînement de la piscine. Il y a la piscine olympique qui est juste en face du Stade de France.
Les délégations qui commencent à arriver de l'étranger.
Et donc, on commence à voir tout ça. Et donc, mine de rien, ça a forcément un impact positif sur mes joueurs, je ne sais pas. Ouais. Mais sur l'environnement.
Oui, sur l'environnement.
Et sur l'idée que des investisseurs sont arrivés dans ce projet-là, c'est aussi parce qu'il y a des perspectives de développement. Le rachat du stade, tout ce que vous pouvez construire autour, tout ce que vous pouvez développer, le fait de récupérer aussi des infrastructures qui auront été pour les JO, il y aura des appels d'offres et peut-être que des clubs, justement, un peu comme nous, très proches de ces JO, peuvent profiter de ça. Mmh. Et donc, ça, pour moi, c'est très positif dans une ville comme celle-ci, dans un département comme le 93.
Vous devez le savoir, dans cette ville de Saint-Ouen, 93, il y a une rue Socrates depuis quelques semaines.
Oui, exactement. Il y a une magnifique fresque sur un immeuble lorsque vous êtes sur le périphérique. Magnifique.
Ouais. Donc, des Brésiliens vont arriver, parce qu'il y a beaucoup de partenariats avec la ville brésilienne.
C'était pas du niveau de Rayou de Socrates.
Il y a des pépites.
Des petits jeunes.
Juste pour prolonger le propos de Chérif, pour aussi rappeler une chose, c'est que peut-être cette année, le championnat national était l'un des plus durs qui soit de ces dernières années, parce que n'oublie pas, il y avait 6 relégations et que 2 montées.
Absolument.
Enfin, en termes de difficulté et de challenge, pour le coup, là, d'habitude, c'était un 2 plus 1, d'habitude, avec le 3e
qui
est
un barrage. On a bien aimé qu'il y ait des barrages, parce qu'on aurait été dedans.
C'est ça, mais là, non, et 6 descentes surtout, donc ça veut dire que le moindre équipe que vous affrontez, qui est 14, 15e, ben, lutte pour le maintien. Bref, chaque match, c'est un cliché, mais c'est là, c'est encore plus le cas.
C'est le couteau.
C'est le plus dur. C'est le plus dur. Depuis 2 ans, en fait, il faut comprendre que le 7-8e de National est jusqu'au mois de février-mars. Bah, dans une logique où ils peuvent monter, mais dans une logique où ils peuvent descendre aussi.
Voilà,
ça fait 2 ans, on a eu le privilège d'être toujours dans les 3-4 premiers et de jamais vivre ce spectre un petit peu, d'être dans les 6 derniers. Si vous rapportez ça à la Ligue 1, j'ai regardé, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, le 9-10e de Ligue 1 pourrait descendre. Parce que vous avez un tiers du championnat qui descend. C'est-à-dire que vous avez 18 équipes et vous en avez 6 qui vont au niveau inférieur. Et donc ça, c'est très très dur parce que toutes les équipes en fait, se battent pour leur survie. Et quand vous rencontrez le 14e, bah, il arrive et la réalité, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de marge, nous, cette année. On a été très, très bon dans le jeu et c'est ce qui a fait la différence. Mais si on regarde l'homogénéité des effectifs, je n'ai pas des joueurs où je me dis j'ai 10 joueurs qui sont bien meilleurs que tous les joueurs des autres équipes. Il y a des joueurs des autres équipes qui pourraient très bien jouer dans mon équipe. Mais nous, on a eu la chance par rapport aux autres, c'est d'avoir un effectif qui est resté constant sur les 2 ans et demi. Et on parle beaucoup de continuité. Mm-hmm. Et moi, j'ai eu la chance quand même d'avoir une direction, un président, Patrice Haddad, un directeur sportif, qui à un moment donné, quand je l'ai exigé, parce que je l'ai exigé, c'est de garder une grande partie de mon groupe, parce que pour moi, la stabilité vous amène en haut. Et ben, on le voit au très très haut niveau, quand ça change constamment, il n'y a pas forcément de résultat. Si vous gardez une stabilité dans la difficulté, et l'année dernière, ils auraient pu tout renverser, hein, vous finissez 3e, ils auraient pu dire changement de coach, changement de joueur, on recommence. Le fait d'avoir gardé un effectif qui est à 90%, moi j'ai gardé 18 joueurs sur 23 l'année dernière. Et j'en ai recruté que 5 cette année. Et j'en ai 4 sur les 5 que j'ai recrutés qui sont titulaires. Mais ça veut dire que l'équipe et le groupe a peu changé. Et je me suis appuyé aussi pour ça,
sur ça pour qu'on soit performant cette année.
Et quand Habib parle d'équipes qui changent beaucoup de haut niveau, il ne parle pas de Marseille, on est d'accord, hein, non,
mais ce qui est impressionnant, je trouve, dans le travail que tu as pu fournir, c'est que tu es parti. Bon, tu savais que de toute façon, il y avait les fusils qui t'attendaient. Ça, il n'y a pas de doute, parce que avec toutes les analyses que tu avais pu avoir, en plus, quelqu'un qui a des idées sur le jeu, avec une forte personnalité, donc on savait que ce ne serait pas simple. L'année dernière, toi, tu l'as vécu comme un échec. On peut juger que c'est un échec ou pas. Moi, j'en suis pas certain, parce que là, je pense que peut-être même toi, ça va t'apprendre en tant qu'entraîneur. Le fait de te dire, quand tu disais non, il n'y a pas de mauvaise défaite, en quelque sorte, parfois il y en a. On s'en rend compte plus tard, un an plus tard, on se dit finalement.
Il n'a pas changé.
J'ai tenté en tout cas. Non, parce qu'à un moment, même un groupe apprend. À la rigueur, quand tu dis la troisième journée, on a cette défaite et là, je les mets devant leur responsabilité. C'est la défaite qui fait que tu les mets devant leur responsabilité. Donc d'une certaine manière, là, ça t'a permis de rebondir. Mais bon, ça, à la rigueur, on verra à l'usage. Mais ce que moi, je trouve assez impressionnant quand même, c'est qu'avec tes certitudes, la manière dont tu as formé ton projet, parce que attention, ce n'est pas un projet comme ça sur un bout de table, c'est que tu avais ton préparateur, on a déjà discuté.
Ouais, on est huit personnes avec
lesquelles tu avais travaillé en amont, avant même d'avoir l'équipe. C'est-à-dire qu'ils savaient exactement où ils veulent aller et y aller. Et bien là, je trouve que c'est franchement chapeau, c'est pas simple, sachant que, étant Habib Bey, il est un peu plus attendu que les autres. Faut pas se mentir. Tout le monde se dit, ah bah tiens, Habib, si on pouvait lui faire fermer sa bouche, ça serait très bien. Parce que, mine de rien, à partir du moment où on a une personnalité comme il a, plus une aura, parce que c'est comme ça, et ben d'une certaine manière, les gens vous attendent. D'ailleurs, à l'époque, tu m'avais dit, que je prenne une Ligue 1 ou une Nationale, sera pareil. Parce que
ouais, c'est la même chose.
Mais d'une certaine manière, d'avoir pris une Nationale, c'est top, parce que ça t'a permis de travailler par le bas.
Ouais, exactement.
Et d'apprendre plein de choses.
Ce qui est bien aussi, Hervé, je te le dis, parce qu'on parle beaucoup, et moi, souvent, je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui m'attendaient avec le fusil. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont encouragé.
Bien sûr.
Et je pense souvent à Claude Leroy, parce que c'est quelqu'un qui m'envoie toujours des messages, qui a toujours eu des petits mots pour moi. Il y a plein de gens, on en discutait avec Hervé, les messages que Hervé m'a envoyés. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont été très bienveillants aussi avec moi. Dans l'échec de l'année dernière, que moi j'ai pris comme un échec personnel, il y a plein de gens qui m'ont dit... Ta saison, t'as pris une équipe relégable, vous êtes fini 11e, là vous êtes 3e.
On t'a aidé à relativiser.
Donc, il y a forcément des gens qui ont été dans la défiance, mais il y a aussi des gens qui ont été là dans quelque chose de très positif. Et puis au fond, c'est ce que j'avais dit, on travaille pour nous, on travaille aussi pour se prouver à nous-mêmes qu'on est capable et pas forcément de dire aux autres, vous avez vu. Oui. Parce que c'est pas la réalité d'aujourd'hui. La réalité d'aujourd'hui, c'est que aujourd'hui on monte en Ligue 2, mais demain matin, je vais faire face à d'autres difficultés, d'autres challenges. Il faudra recommencer. C'est la réalité du foot. C'est quand vous gagnez, il faut de toute façon recommencer.
Oui, surtout que parfois on dit, je pense à, par exemple, quand on parle de Zidane, il commence en Real Madrid, donc forcément.
C'est pas le
c'était
même,
peut-être. Non, mais c'était peut-être justement commencer par le national. C'était aussi une manière de dire humilité, quoi.
On a pris quelques contre-pieds parce que tout le monde s'attendait à ce que.
Oui.
Mon ambition soit d'aller en Ligue 1. La réalité, c'est qu'il y a des clubs de Ligue 1 qui sont venus et dont je n'ai pas donné suite, en fait. Et j'ai pas, parce qu'il fallait prendre son temps. Et surtout, j'avais un club qui me permettait, en fait, à ma dimension, de faire ce que j'avais envie de faire. On m'a laissé les mains libres.
Ouais, parce que toi, le fond, c'est ça, c'est le fond qui est intéressant. C'est le vrai travail que tu as envie de faire.
Exactement.
C'est-à-dire la manière dont tu veux amener
le chemin. Vous n'êtes même pas entraîneur, vous êtes presque manager.
On est entraîneur, manager. Après, moi, j'aime beaucoup être sur le terrain, donc très présent dans l'entraînement. Mais plus les années ont avancé, là, c'est presque 3 ans, et plus on prend un petit peu de recul. Mm-hmm. Après, je me suis staffé aussi. Je pense que, comme Hervé l'a dit, j'ai des gens autour de moi qui travaillent parfaitement bien, qui connaissaient aussi ma méthodologie, parce que c'était pas simple d'adhérer à ce que je voulais faire, parce qu'au départ ça fait peur quand vous arrivez et que vous dites voilà, moi je vais renverser la table, on va s'entraîner comme ça, comme ça, comme ça. Même les joueurs au départ, c'était pas acquis au départ, mais les résultats vous amènent de la confiance, les joueurs prennent confiance aussi en ce que vous faites. Et puis on a construit comme ça et aujourd'hui on vit un très très bon moment avec le groupe.
Habib, parlons encore un peu du national. Chérif parlait des spécificités, notamment des clubs de jeu. Qu'est-ce qui est si différent? On sait que par exemple quand un club passe de Ligue 2 à Ligue 1, on parle toujours d'un gouffre, d'un gap. On se souvient de certaines équipes quand elles montent et descendent sans arrêt. Je pense malheureusement au FC Metz par exemple. Je me souviens aussi quand Reims monte de Ligue 2 en Ligue 1, ils changent pratiquement tout l'effectif en disant ouais, c'est des joueurs de Ligue 2 mais pas de Ligue 1. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour vous au quotidien? Peut-être aussi dans les déplacements, parce qu'on ne va plus à Brest ou à Nantes, on va à Concarneau, on va à Rodez, on va à Niort. C'est aussi très différent tout ça.
Alors c'est différent. Après, moi, dans mon club, on a des conditions de voyage qui sont exceptionnelles. On fait le train ou le bus comme n'importe quelle autre équipe professionnelle qui serait aujourd'hui en Ligue 1. Donc on y va la veille, donc on se prépare 24 heures avant. On n'est pas dans une logique que peuvent connaître des clubs comme Avranches, par exemple, qui n'ont pas de moyens et qui voyagent le jour du match et qui peuvent faire 6-7 heures du bus avant de jouer à 19h30. Mm-hmm. Moi, j'ai des conditions de voyage et d'organisation qui sont top niveau, dignes d'un club de Ligue 1, pour être très honnête. Après, ce qui change, c'est la première chose, c'est le contexte. Vous jouez à Beauvais devant 5000 personnes et le week-end d'après, vous allez à Avranches et il y a 150 personnes avec des tambours et une petite kermesse. Et en fait, la réalité, c'est que quand vos joueurs arrivent là-dedans sur un terrain qui n'est pas top top en termes de surface de jeu, bah, le contexte est complètement différent de ce que vous vivez en fait à domicile. Donc, il faut être capable de switcher le cerveau et de se dire, bah, c'est presque un peu comme l'équipe de Ligue 1 qui va en Coupe de France et qui joue contre N2 et qui se dit, bon, bah, c'est pas le même quotidien. Ça, il y a cet élément-là. Et après, le deuxième élément, moi, qui a été très formateur pour moi, c'est que de plus en plus en national, vous avez des entraîneurs qui ont un projet de jeu bien précis avec une identité. Mais ça commence à arriver. Et on a été un peu, avec certains entraîneurs de national, les précurseurs de cette logique de « Eh, en national, c'est possible de jouer au foot ». Je vous donne un exemple. Quand je suis arrivé il y a 2 ans et 10 mois, il y a des gens qui ont dit « Habib Bey et son football romantique, on va lui montrer. Le national, c'est des longs ballons et c'est la guerre ». Et en fait, vous avez plein de coachs. Je pense à Stéphane Lemignan qui est monté avec Concarneau. Vous avez des coachs qui sont arrivés au Mans, par exemple, où ils ont commencé, et on a commencé, et nous, on est arrivé avec cette idée-là de dire « Ok, on a des joueurs de national, mais il est possible d'avoir un projet de jeu bien identifié, avec une identité de jeu, une volonté, une ambition de passer par le jeu. » Et là, maintenant, vous regardez le championnat national. Déjà, d'une, c'est un championnat qui est professionnel parce que vous avez 9 clubs professionnels sur 18, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans. Mm-hmm. Il y a 3 ans, vous aviez 2-3 clubs professionnels. Aujourd'hui, vous aviez Nîmes, qui était en Ligue 1 il y a 2-3 ans. Vous avez Nancy, qui était en Ligue 1 il y a 2-3 ans. Vous avez Dijon, qui était en Ligue 1 il y a 2 ans. Vous avez Sochaux qui était en Ligue 1 il y a 2-3 ans. Donc, vous avez beaucoup de clubs qui descendent pour des raisons qu'on connaît, hein, mauvaise gestion, mauvaise organisation.
Rachat, oui.
Mais le championnat est très élevé. Par contre, vous avez des équipes où le projet de jeu, il est illisible. C'est-à-dire qu'un samedi, vous les regardez à la vidéo et vous allez le vendredi d'après, vous dites, mais c'est pas possible, on les a analysés, ils étaient en 4-3-3, là, ils jouent à 5. Il y avait lui qui jouait, il y a 5 joueurs qui ont changé. C'est la vraie problématique qu'on a, c'est qu'il est très difficile d'avoir une analyse précise de l'adversaire. Là où en Ligue 1, vous jouez à un moment donné une équipe, vous savez qu'elle ne va pas changer de projet de jeu tous les week-ends. Nous, on a arrêté, en quelque sorte. On le faisait beaucoup l'année dernière pour se donner de la confiance et un petit peu se dire, bon, on bosse. On passait du temps sur l'adversaire et on arrivait le vendredi, nouveau système, nouveau joueur. Au bout d'un moment, j'ai dit à mes joueurs et à mon staff cette année, vous savez quoi les gars, c'est un parti pris, je l'assume. On va se concentrer que sur nous.
Voilà.
On va regarder l'adversaire, vous inquiétez pas, on aura tous les éléments. Mais nous, on va faire exactement ce qu'on veut faire, peu importe l'adversaire, peu importe le système. Et donc, on a modifié un petit peu la logique d'entraînement, on leur a fait vivre différentes situations pour les amener en fait à se dire, si ça joue à 4, si ça joue à 5, si ça joue avec un bloc bas, un bloc haut, un médian, peu importe, il faut qu'on soit en capacité de s'adapter. Parce que c'est assez illisible, pour être très honnête. Donc ça, c'est les difficultés que vous rencontrez dans ce championnat, c'est le contexte et le côté un peu illisible de certaines équipes. Et je dis bien certaines équipes, et pas de tout le championnat. Parce qu'il y a de plus en plus d'équipes qui jouent au football dans cette division.
Alors, Habib Bey, je vous l'ai dit, il y a énormément de gens qui vous suivent désormais. On suit le national. J'ai même trouvé des articles dans Abola, qui est un peu le France Football du Portugal. Évidemment, en Afrique, on a aussi beaucoup suivi et commenté cette réussite au Red Star. Écoutez, certains auditeurs nous... Alors, on en a reçu des dizaines aujourd'hui, presque plus d'une centaine. Et c'est David Finzel qui a dû sélectionner.
Salut RFI, salut à toute l'équipe de Radio Foot International. C'est Odon Mwindo depuis la RDC. J'aimerais juste souhaiter bonne chance à l'entraîneur Habib Bey pour son équipe lors de la prochaine saison en Ligue 2 française. Et surtout, félicitations à lui pour avoir ramené cette équipe en Ligue 2 après 5 ans dans les divisions inférieures. Félicitations coach Habib et bonne suite. Merci.
Bonjour Radio Foot International, c'est El Hazil depuis Sénégal Dakar. Parler d'Habib Bey, c'est parler de la discipline tactique. Du joueur qu'il a été en passant par le consultant extraordinaire, il est en train de montrer tout son temps, mais aussi tout ce qui représente la discipline ou bien même ce football moderne. Habib, mention spéciale à toi, on t'encourage depuis le Sénégal, on est fiers de toi.
Salut le Café des Sports, ici c'est Oumar Baro. Ceci est un message de félicitations à notre compatriote Habib Bey qui abat un gros travail du côté de Red Star. Ce qui le caractérise, c'est sa façon de penser et son intelligence. Comme disait Frank Beckenbauer, le football est un sport qui se joue avec la tête. Les pieds ne sont que des accessoires. Merci, félicitations à lui. Bonne émission.
Bonsoir Habib. J'espère que vous allez bien. C'est Messi fidèle depuis Lubumbashi, République démocratique du Congo. Félicitations à vous pour cette montée en Ligue 2. Alors, Habib, je voudrais savoir, est-ce que vous avez des ambitions d'être un jour sélectionneur des Lions de la Teranga du Sénégal, en fait? Et je vous souhaite une très belle carrière en tant qu'entraîneur.
Habib, des éloges hein, qui viennent de très loin, hein, pas seulement du
plaisir.
Sénégal.
La question. Parce que ça vient de partout et c'est une vraie reconnaissance pour le travail qu'on a pu faire. Mais c'est toujours ramener ça à mes joueurs parce qu'ils ont, ce sont eux les moteurs de ce projet-là. On les a accompagnés, mais ils font quelque chose d'extraordinaire. Et c'est tous ces messages, c'est aussi de les ramener à eux parce que je vis une aventure humaine depuis plus de deux ans et demi qui est exceptionnelle dans ce club. Et je les ai félicités parce que c'était pas simple cette saison et ils l'ont fait. Et pour la dernière question, je l'ai déjà dit, j'ai pas peur de m'exposer par rapport à ça.
Oui, vous
en rêvez. Ça fait partie de mes rêves et même d'une volonté un jour de bien sûr être le sélectionneur de mon pays. Maintenant, il y a des logiques de timing. On a un sélectionneur aujourd'hui qui fait un travail incroyable, pour qui j'ai énormément de respect. Et je suis très content qu'il soit là et qu'il reste avec cette sélection. Il y a eu de la stabilité. Cette stabilité nous a apporté une Coupe d'Afrique des Nations, la première pour le pays. Et je pense qu'il sera important de se poser la question dans le futur. Mais là, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vivre, c'est des expériences en club.
Oui.
Gagner de l'expérience dans cette logique de numéro un en club.
Avec un travail au quotidien. Avec un travail au quotidien.
Parce que sélectionneur, déjà, d'un pays, mais du Sénégal, on sait que c'est une lourde responsabilité. Il ne faut pas la prendre à la légère. Et je pense qu'il faut le faire quand on est prêt. Donc j'ai dit que, bien sûr, c'est un objectif de carrière. Mais ça doit être un objectif qui arrive en temps et en heure. Et aujourd'hui, ça serait irrespectueux vis-à-vis déjà d'Aliou de aujourd'hui dire « je veux y aller maintenant » parce que ce n'est pas une réalité. Et surtout, j'admire le travail qu'il est en train de faire. Et je suis très content que le Sénégal vive ces moments-là. On ne peut pas juste résumer par rapport à une élimination quand vous avez gagné la CAN. C'est le lot de beaucoup de grosses équipes de ne pas pouvoir faire back-to-back parce que c'est très difficile et Hervé le sait.
Oh, bien sûr.
Et Aliou fait un travail extraordinaire. Il a mis le Sénégal tout en haut du continent africain. Et ça, c'est une bonne chose. Et je vais continuer à observer l'équipe du Sénégal. Et si un jour, cette opportunité se présente dans le bon timing, bien sûr que je serai le serviteur de mon pays. Et ça sera un immense plaisir de le vivre ce moment-là.
Vu le chemin que vous avez apparemment choisi, c'est-à-dire en commençant par le national, ça aurait été étonnant que vous disiez « oui, oui, demain, je peux prendre une sélection ». Salim.
Juste une question. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Habib. La saison dernière, il y a eu cet échec au final avec le fait que reste en national. Vous avez donc longuement réfléchi à ce moment-là, est-ce que vous restiez ou pas, vous repartiez sur ce projet. Là, il y a une montée en Ligue 2, donc on change de dimension, mais avec des besoins nouveaux, des joueurs, un projet, que sais-je. Est-ce que vous êtes de nouveau dans une réflexion d'attente, de « j'ai besoin de ci, de ça, si on me le donne, c'est bien, si on me le donne pas ».
Non, c'est assez simple, je suis en fin de contrat. Ouais. Il y avait une volonté avec le président de ne pas discuter d'une continuité en termes de contrat pour deux raisons. C'est que si le club ne montait pas en Ligue 2, j'étais pas l'entraîneur qu'il fallait au Red Star parce que ça aurait été en quelque sorte une deuxième saison parce que la première n'était pas vue comme une logique de montée mais ça aurait été deux saisons avec cette non-montée et donc nos routes se seraient séparées fort logiquement, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas là, donc le Red Star n'a pas à continuer avec moi. À partir du moment où l'objectif est là, on s'était dit le jour où l'objectif est acté, on commence à discuter du futur projet parce que ce n'est pas la logique de réengagement. Moi, ce que je veux connaître, c'est quel est le projet du Red Star, mais pas dans un mois. Aujourd'hui, un projet, ça se détermine sur moyen terme, court-moyen terme, c'est-à-dire sur les deux prochaines années, que je comprenne où le club veut aller, où les investisseurs veulent aller, parce qu'on a des investisseurs américains. Que je sache aussi si moi, je suis en capacité de mener ce projet à bien, parce que je suis quelqu'un d'ambitieux et comme je l'ai dit, j'irai dans aucun club en Ligue 2 à part le Red Star. Ça, c'est une réalité, c'est une certitude. Mais par contre, j'ai l'ambition d'entraîner au plus haut niveau. Et aujourd'hui, le plus haut niveau, c'est la Ligue 1. Le Red Star n'y est pas encore. On m'a fixé une mission il y a un peu plus de deux ans. Cette mission, aujourd'hui, l'objectif est réalisé pour le club. Et c'est ça, c'est le plus important. Et moi, je vois mon président dans les prochains jours. Et on va discuter de ce futur projet. Et on sera en capacité, en gentleman, comme on se l'est dit, de prendre la bonne décision pour le club et pour moi. Mais par contre, ce que j'ai dit à mon président, c'est que je suis quelqu'un d'ambitieux. Et si demain on doit continuer cette aventure, j'ai besoin d'être sûr qu'on a une équipe, pas qui va monter en Ligue 1, mais qui sera en capacité très vite de challenger justement cette montée en Ligue 1. Parce que vous ne pouvez pas déterminer à coût d'investissement la logique de « je suis en Ligue 1 ». Le club pourrait me dire « Habib, on te donne 50 millions, Mais ce n'est pas parce qu'on va vous donner 50 millions et 10 joueurs que vous allez monter en Ligue 1 instantanément. C'est la cohérence du projet. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on cible? Comment le club se structure et continue à se structurer et à grandir pour que le projet puisse amener ce club-là en Ligue 1? Parce que, c'est ce que j'ai dit à la fin, ce club ne doit plus jamais revoir le national. Dans sa structuration, l'élan qu'ils viennent de prendre à travers des investisseurs qui ont amené des capitaux, le développement du stade, le développement de la ville à travers ce qu'on a dit, les JO, les infrastructures, ce club, avec Habib Bey ou un autre, avec ce joueur-là ou un autre, ne doit plus jamais revoir le national. L'idée maintenant pour le Red Star,
c'est d'être
ambitieux, c'est de se pérenniser en Ligue 2, d'aller en Ligue 1 et qu'il devienne un club important, parisien, comme on peut l'avoir à Londres avec 5 clubs londoniens dans la Première Ligue. Il faut absolument qu'on ait le Paris FC en Ligue 1, il faut qu'on ait le Red Star en Ligue 1, parce que c'est un vivier extraordinaire avec des ressources. Vous regardez dehors, vous avez des joueurs, des gamins qui ont un talent incroyable qu'il faut développer à travers de l'académie, centre de formation. Et tous ces éléments-là, c'est de la structuration. Mais la structuration, et vous le savez, prend beaucoup de temps. Et dans mon ambition, je suis obligé de le dire maintenant, j'ai peu de temps. Et je me suis donné le temps là maintenant, mais je me suis aussi donné le temps et aussi le privilège maintenant de regarder un petit peu plus haut et de voir ce qui peut m'être proposé.
Parce qu'il ne faut pas oublier une chose qui est importante, c'est qu'il y a quand même quelques clubs en Ligue 1 qui vont laisser les entraîneurs, même des très bons clubs. Il y aura donc des réflexions sur les futurs entraîneurs et évidemment que le nom d'Habib Bey va remonter. Ça, c'est obligatoire parce qu'aujourd'hui, on te connaît, on sait que tu as réussi, ça c'est important. On sait que tu avais un projet, à la fois un projet de jeu et un projet de vie sportive d'une certaine manière.
Une vraie vision du
football que tu demandes. Des clubs déjà te voulaient à une époque où tu n'avais pas rien fait. Là aujourd'hui, tu as prouvé que tu pouvais mettre en adéquation à la fois ton discours et des résultats, ce qui est capital. Donc effectivement, je pense que cette année, même des clubs que je connais bien et qui vont peut-être rechercher les entraîneurs, et inévitablement, tu seras dans les listes. Ça, je ne peux pas imaginer autrement.
Justement, on imagine dans les clubs de Ligue 1 qui sont actuellement dans le championnat de France, il y en a un particulièrement, c'est l'OM où vous avez joué, vous avez été un capitaine et sans doute avez-vous le rêve d'un jour y être. Mais est-ce qu'il y a d'autres clubs comme ça, français, dont vous rêvez peut-être utopiquement?
Il y a des clubs qui ont un charme incroyable dans cette logique de Ligue 1. Quand vous pensez à votre enfance et ce que vous avez vécu, je trouve par exemple qu'il y a des clubs où la passion n'est pas débordante, mais un club comme Monaco, je trouve que c'est des clubs aujourd'hui. Alors le Adi Hütter fait un travail exceptionnel et il va les emmener en Ligue des Champions, donc c'est pas des logiques de clubs disponibles, mais il y a des clubs, on prend même aujourd'hui Strasbourg, ce que fait Patrick Vieira avec des jeunes joueurs, ce sont des clubs qui ont une identité. On parlait de Lens tout à l'heure. Tous les clubs qui ont une identité, c'est peut-être les clubs qui, pour moi, ont une véritable attention parce que je pense que j'ai besoin de ça, en fait, de vivre cette passion. Alors, Monaco, c'est différent, mais Monaco, c'est quand même un club qui a une histoire incroyable.
Prestigieux, en tout cas.
Alors oui, on va dire, il n'y a pas beaucoup de monde dans le stade, mais ça reste un club qui, déjà, dans les projets de jeu, il y a toujours une logique de jeu à Monaco. Il y a toujours une logique de beau jeu, de jeu offensif, et ça me parle énormément.
Il y a Rennes qui est pas mal.
Rennes aussi. Rennes, c'est aussi des très beaux clubs. Mais je pense que ce qui est important pour un entraîneur, c'est de sentir lorsqu'il embrasse un projet, c'est il est au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et c'est pas forcément le nom du club qui est important. Comme l'a dit Hervé, j'ai été sollicité par des clubs de Ligue 1 et pourtant j'ai décidé de rester en National. Alors j'aurais pu prendre tout de suite un petit peu la voie la plus simple et de me dire dès que j'ai un club de Ligue 1, je sors du National. Et au fond, je me dis que si on travaille bien, parce que j'inclus toujours mon staff, c'est très important que les gens l'entendent, c'est que les opportunités arriveront. Et qu'à ce moment-là, on aura le temps de se poser la question de savoir quel est le projet le plus intéressant pour notre développement, parce que j'estime qu'un entraîneur est toujours en développement. Et surtout, vivre dans un club où on nous donne les moyens de travailler sereinement, parce que c'est ce que j'ai vécu sur mes 3 années d'entraîneur là, et ça a été un véritable privilège. Donc, il y a beaucoup de clubs. Annie, vous savez que Marseille est un club qui m'a beaucoup marqué, mais c'est un club où la stabilité n'a pas été à l'ordre du jour sur les 2-3 dernières années. Et c'est peut-être,
même cette saison, tout
c'est
simplement.
Peut-être des clubs très difficiles lorsque vous êtes un jeune entraîneur. Même si ça peut être très attractif, il faut y réfléchir vraiment et savoir quel est le vrai projet de ce club-là.
C'est Beethoven, je crois qu'il disait c'est l'important, c'est le tempo.
Il faut arriver au moment où il se passe un peu n'importe quoi.
Et effectivement, c'est peut-être pas la meilleure période en ce moment du côté de Marseille. Mais ce qui est marrant avec Habib, quand même, dans son staff, son fameux staff, c'est que visiblement, tu prends des bonnes personnes parce qu'elles sont récupérées ailleurs. Mm-hmm. Pierre Sage, hop, il est à Lyon. à Clermont, dans ancien adjoint.
Ouais,
c'est-à-dire
Sébastien Bichard.
Donc, d'une certaine manière, c'est aussi une mise en valeur du, de ton côté DRH, quoi.
Ma maman me disait, et ma maman m'a toujours dit, tu sais, mon fils, fais briller ton chemin, illuminera celui des autres. Et en fait, quand Sébastien a été sollicité par Clermont, il vient me voir et me dit, écoute, Habib, j'ai été sollicité par Clermont. Et je lui ai dit, mais tu viens me demander de partir ou tu viens me demander si je dois te laisser partir? Il dit, non, mais je sais pas si je t'en parle. Et je lui dis, c'est une opportunité fantastique. Et on a vécu 6-7 mois ensemble qui sont exceptionnels. Mais toi, c'est ton destin. Et t'inquiète pas. Dans l'avenir, on sera peut-être amené à travailler ensemble. Mais quand on s'est rencontrés, on s'est juste dit, on bosse ensemble. Mais on s'est pas fait un pacte à vie. Et je trouve génial que des gens qui travaillent avec moi étaient reconnus avant de travailler avec moi. Parce que c'est ce que les gens doivent comprendre, c'est que Sébastien Bichard, il avait été identifié avant même de travailler dans mon staff. C'est juste que c'était un très bon. On a choisi un très bon et aujourd'hui, il est en Ligue 1. J'espère qu'il y restera, même si ça va être très compliqué. Et pour Pierre, c'était quelqu'un de très talentueux qui a vu son destin changer en un claquement de doigts. Il était à la formation, on le parachute avec l'équipe première, il fait un truc incroyable. Et aujourd'hui, il va vivre une finale de Coupe de France. Je parle avec les deux très souvent. Et je suis hyper content, en fait, que des gens avec qui j'ai bossé, avec qui j'ai partagé des émotions. Pierre, on a vécu ensemble la cicatrice. Hein, il était à mes côtés quand on ne monte pas à la dernière journée. Et le voir aujourd'hui en Ligue 1, c'est un magnifique cadeau, en fait, de voir quelqu'un avec qui on a bossé, qu'on aime énormément, en fait, vivre ces moments-là. Et il ne faut pas être dans ce côté aigri où on pourrait dire, bah, t'as vu, eux, ils sont en Ligue 1. Non, je suis super content pour eux et en plus, ils le méritent.
Habib, merci et bravo.
Merci.
Et si vous le voyez bien, on va continuer. On va retrouver Habib comme commentateur, surtout que vous continuez à le faire.
En
Afrique, ils vous suivent toujours pour ce qui est de la Ligue des Champions.
Bah, c'est une belle matière pour un entraîneur de voir des si grands matchs.
Vous ne commentez pas à Marseille, parce qu'ils font quand même un beau parcours européen, n'est-ce pas? Mais on vous interdit Marseille.
Vous savez, 20 ans après, 2004, Monaco en finale de Ligue des Champions et l'OM en finale d'Europa League, rappelez-vous, Coupe de l'UEFA à l'époque.
Cette année,
on peut avoir 2024, 20 ans après, le PSG en finale de Ligue des Champions et Marseille en finale de C3.
Exact. On va rêver. Et on va parler du Paris Saint-Germain un petit peu. Je crois que Xavi, ça sera pour demain.
Et Ousmane Dembélé qui va armer. Effectivement, Kylian Mbappé, Kylian qui roule, et elle est belle, 4 buts à 1, 89e minute de jeu, Kylian Mbappé sur le côté, go !
Et c'est 4-1, tarif syndical.
Toujours fidèle, Bruno Salomon à son Paris Saint-Germain avec Eric Rabessandratana. Alors la victoire était belle en Bretagne hier soir dans le petit port de Lorient où le PSG s'est imposé sur le score de 4-1. Mais une autre victoire alors, dans un port donc, que vous appréciez, Habib, très prisé par les yachts de milliardaires. Monaco a battu Lille et résultat, eh bien, le PSG devra fêter son titre un peu plus tard. Alors c'est peut-être pas grave, ça sera au Parc des Princes, sans doute face au Havre au cours du week-end. En tout cas, une domination presque totale des Parisiens, presque, parce que ça n'a pas été. Il y a eu des petits moments de relâchement, une équipe presque B de l'entraîneur et un doublé de Mbappé. Il a joué sur la seule pelouse de Ligue 1 en plus où il n'avait jamais marqué de but. Donc. Et puis celui qui a encore marqué, c'est Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, qu'est-ce qui y arrive là? Parce qu'on le voit toujours vraiment martyriser les défenses adverses, mais là en plus. Il finit les actions et on l'a vu pendant la Ligue des Champions. Habib.
Mais on en parlait, je pense qu'il est au bon endroit, au bon moment avec le bon entraîneur. Celui qui a su en fait à travers ses mots. Il a su à travers ses mots en fait lui donner énormément de confiance. Depuis le début, il ne cesse de dire que Ousmane Dembélé est un joueur fantastique. Même quand Ousmane Dembélé était décrié, qu'il ne marquait pas, il l'a toujours soutenu. Et je pense que le poids des mots de Luis Enrique sur Ousmane Dembélé ont été très importants. Parce qu'en fait, ça l'a maintenu dans une logique de confiance de la part de son entraîneur. Il en a fait presque, et je dirais presque, un joueur plus important que Kylian Mbappé dans la valorisation. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Parce que pour moi, il a mis beaucoup plus en avant Ousmane Dembélé que Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, Ousmane Dembélé est devenu, pas la menace numéro un, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très difficile de lire le PSG offensivement parce que ça vient de partout, ça marque partout, la confiance est partout. Même un Barcola, on l'a vu. Et Ousmane Dembélé est en train de valider tout ce qu'on avait vu de lui. Et peut-être qu'on est au moment de sa maturité. C'est-à-dire que c'est souvent on attend les prodiges, on les attend, on les attend, et puis bah il y a un déclic, il y a une année, il y a un mois, ça bascule et on se dit bah.
Non mais je pense que tu as raison.
Ce joueur-là a changé. Joueur-là a changé.
Je pense que tu as raison. La confiance de l'entraîneur, je pense que c'est ce qui a fait la différence. C'est la méthode Deschamps en équipe de France aussi. Il ne lâche jamais ses joueurs. À partir du moment où il croit en jeu, ça peut être Pavard, ça peut être Griezmann qui a eu des moments difficiles, ça peut être Giroud, même Benzema qui est resté 1400 minutes sans marquer. Il n'a jamais lâché. Et la confiance de l'entraîneur, puis quand les planètes s'alignent, c'est-à-dire que quand on arrive déjà en quart de finale de Ligue des Champions, bah...
Salim, est-ce que c'est l'arme fatale du Paris Saint-Germain, ce duo? Et en plus, à un moment où il y a trois trophées à aller chercher. Bon, celui du championnat de France, l'Hexagone, je pense que ça, c'est pas compliqué. Mais il y a une finale de Coupe de France et puis il y a une demi-finale de Ligue des Champions.
Quand vous avez une personne, donc Mbappé, qui lui est presque là pour écrire la fin de son histoire au PSG, hein, un storytelling qui est écrit de telle manière à s'il gagne peut-être tout et qu'il parte, entre guillemets, sur ces trophées-là. Et puis de l'autre côté, Habib l'a bien dit, il y a une kinésithérapie qui fonctionne au final avec Ousmane Dembélé et il est tout d'un coup en confiance. On s'étonne qu'il marque des buts. C'est vrai qu'il faisait le plus dur, c'est-à-dire dribbler, s'ouvrir le chemin du but, il le faisait. C'est juste le tir qu'il n'arrivait pas à faire. Si maintenant il arrive à faire ça, donc la confiance entraîne la confiance, j'ai envie de dire. Vous avez Mbappé qui lui se sent bien, vous avez d'autres joueurs, Barcola, même Gonçalo Ramos, quand il joue un match moindre, entre guillemets, il marque ses buts aussi. Aujourd'hui, vous avez des solutions A, B, C, D. C'est très effrayant quand vous êtes adversaire de ce PSG aujourd'hui.
Théoriquement, c'est pour préparer la saison prochaine. Mais bon.
On va attendre simplement un petit peu pour Dembélé pour voir si c'est une forme de constance. Aussi. Si c'est pas parce qu'il a marqué trois buts, il l'avait déjà fait du côté de Barcelone.
Trois fois en trois matchs.
Même quand il était à Rennes, ce côté déséquilibre permanent d'être capable de briser à peu près toutes les défenses. C'est-à-dire qu'on est en tant qu'entraîneur, c'est-à-dire qu'on a une solution vraiment assez incroyable là-dessus. Mais c'est vrai qu'il doit être un peu plus juste. C'est pour ça que j'ai adoré son premier but là, sur sa frappe. Il rentre intérieur, il élimine deux joueurs. Bah, il a une frappe. Calme, précise, clinique, il se précipite pas. Alors il faut dire une chose aussi, j'avais souvent remarqué, c'est que les gardiens face à lui, alors soit c'est parce qu'il les frappe peut-être pas assez bien, mais n'empêche qu'il frappe pas n'importe où. Souvent il y a des arrêts de gardien, donc ça veut dire qu'il n'est pas si maladroit que ça en fait. Mais il faut qu'il gagne, s'il pouvait gagner ces petites choses-là. Alors on verra si sur la longueur il peut le gagner. Et puis du côté de Kylian Mbappé, on connaît, c'est pas un souci. Moi, Enrique en plus. Avant qu'il arrive, je me souviens, je m'étais dit, c'est vraiment l'entraîneur qu'il fallait pour ce Paris Saint-Germain-là. Sa gestion de Kylian Mbappé, ce qui me gêne un petit peu, alors c'est tout à fait égoïste ce que je vais dire, c'est que Kylian Mbappé, il va partir dans 4 journées. On aimerait le voir. En gros, c'est ça. J'aurais aimé le voir contre Lyon, mais Luis Enrique, il n'est pas là-dedans. Hein. Puis il a raison, lui, il gère son effectif.
Au final, les résultats lui donnent raison.
Mais nous, comme spectateurs, parce que le jour où Kylian Mbappé part, votre championnat, c'est plus le même.
Hein. Ouais, mais après, Salim, sur la logique des résultats lui donnent raison, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Ouais.
Oui. Parce que si l'histoire de demain amène Kylian Mbappé dans un match clé à ne pas marquer, un peu comme on l'a vu contre le Barça à l'aller où exactement. Tu ne vois pas un joueur très heureux épanoui, on pourra avoir un autre avis sur la gestion de Kylian Mbappé. Et il faut juste se dire que ce n'est pas sur la culture de l'instant, c'est la longue durée qui va donner raison en fait
à Luis Enrique.
Maintenant qu'il le gère, c'est ce qu'a fait Zidane avec Cristiano Ronaldo, c'est ce que font beaucoup de joueurs, Carlo Ancelotti avec les très grands joueurs. Les grands joueurs ont toujours été gérés.
Mais on a Habib, senti qu'il y avait comme une TMT un peu bisbille.
Vous le disiez, il met presque plus en avant Dembélé, alors qu'il l'a connu du côté de Barcelone, il l'a vu en Espagne et tout.
Parce que la marge de progression est aussi beaucoup plus importante que Kylian Mbappé. À mon sens, je suis d'accord avec Hervé.
Ça peut paraître presque injuste.
C'est pas un joueur abouti. Aujourd'hui, un Ousmane Dembélé, quand vous regardez ses qualités, aujourd'hui, je ne veux pas le comparer, mais vous aviez un Arjen Robben, par exemple, qui marquait 20 buts par saison, qui était extraordinaire. Pour moi, aujourd'hui, si vous regardez Arjen Robben, on ne parle pas d'intelligence footballistique, de placement, de lecture de jeu. Je parle sur la qualité intrinsèque, le dribble, la frappe. La réalité, c'est que vous voyez Ousmane Dembélé, vous vous dites, mais comment ce joueur-là ne peut pas marquer un but par match avec les qualités qu'il a?
Exactement.
Et moi, il y a quelque chose qui m'interpelle surtout, c'est que ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu, entre guillemets, de faits divers sur Dembélé. Il est en retard, il est ceci, il est cela. Alors qu'avant, c'était que ça. Là, depuis qu'il est au PSG, vous n'avez jamais entendu « Ah bah, Ousmane Dembélé en retard à l'entraînement ». Je pense qu'il a aussi un peu réaligné avec le professionnalisme nécessaire dans un club comme le Paris Saint-Germain. Pour Ousmane Dembélé, dans une équipe comme le Paris Saint-Germain.
Xavi l'a beaucoup encouragé aussi. Hein,
exactement. Mais de toute façon, Xavi, on a dit que du bien. Et je pense que c'est une perte pour le Barça de ne pas avoir Ousmane Dembélé. C'est aussi ce que lui ont reproché les supporters barcelonais. En gros, tu nous as lâchés, mais c'est une forme d'amour presque brisé. Quoi, parce que je pense qu'ils préféraient l'avoir avec eux que contre eux. Mais ce joueur progresse. Ça, c'est une bonne chose. Il ne progresse pas forcément à vitesse grand V, parce qu'on attend encore. Mais il y a de belles dispositions quand même pour le Paris Saint-Germain.
Mbappé, vous trouvez que c'est un peu injuste justement de le traiter presque, de mieux mettre en valeur Dembélé que
Moi, ce qui
Mbappé.
M'a dérangé, c'est pas qu'il le sorte. Parce que vous devez sortir un joueur qui n'est pas performant. Que vous soyez Kylian Mbappé ou un autre. Ce qui me dérange, c'est quand il a eu le discours de dire « il est un joueur comme les autres, je le traite comme les autres ». Ça me dérange un peu parce qu'on sait tous ici que vous ne pouvez pas traiter Bien sûr. Kylian Mbappé comme Fabien Ruiz. C'est une réalité footballistique. Mais je pense qu'on va demander à Sheriff. Johan Cruyff n'était pas traité comme tous les autres joueurs de son équipe.
Non, mais même avec les joueurs qu'il avait.
Vous prenez aujourd'hui Van Basten au Milan AC, il n'était pas traité comme tous les autres joueurs de leur...
Évidemment.
C'est comme ça dans tous les clubs. Cristiano Ronaldo n'a pas été traité de la même façon que tous les autres joueurs du Real Madrid. Et quand il dit ça, pour moi, là, il va dans une forme de communication où il veut irriter le joueur. Et je ne suis pas sûr, et je dis bien, je ne suis pas sûr que ça ait quelque chose de positif. Maintenant, comme l'a dit Salim, il y a un juge de paix, c'est le bilan. Et le bilan, on sera tous en train de dire bon, bah, gestion de Kylian Mbappé ici.
Un bilan, il ne faut pas oublier aussi, quand même, dans ce championnat de France, où il y a beaucoup d'équipes qui ont dévissé, parce que Monaco ne doit pas être à la lutte avec Lille ou avec Brest. Ça, ce n'est pas possible. Absolument. Monaco, l'effectif qu'ils ont, ils doivent être à la lutte avec le Paris Saint-Germain. L'avantage, effectivement, de cette équipe, vous jouez Lorient. Lorient a pas mal d'occasions, en fait, sur des contre-attaques. Parce que le Paris Saint-Germain, qui joue Lorient, Real Sociedad, Brest, n'importe quoi. Sur les phases de transition rapide, ils sont souvent en difficulté. Après, il y a Donnarumma qui a fait une méga saison. Il n'y a absolument rien à dire. Donc, il y a quand même aussi des problèmes dans cette cuirasse-là. Mm-hmm. Simplement, vous avez un effectif tellement supérieur aux autres, tellement supérieur, qu'il y a un moment où vous pouvez faire des différences.
Oui, Skriniar reconnaissait qu'ils n'avaient pas fait leur meilleur match.
Juste, Habib, dans la manière dont Luis Enrique coach, communique, etc. Il y a des choses où vous dites « Ah, je voudrais bien faire comme lui, peut-être que je vais m'inspirer. »
Moi, je le trouve, en fait, je le trouve innovant, déroutant. Non mais vraiment, je le trouve innovant, déroutant, je le trouve parfois agaçant dans ses choix parce qu'au fond, il nous dit qu'il veut mettre chaque joueur à des postes différents, mais il revient toujours à la formule qui gagne et on l'a vu contre le Barcelone parce que si vraiment il était là-dedans, il resterait là-dedans.
Tout le monde a
sa
place.
Comme tous les entraîneurs du monde, quand on se trompe, on change et je pense qu'il s'est rendu compte qu'il s'était trompé, donc il change. Par contre, ce qui me plaît, c'est qu'il est arrivé dans ce club et il a dit « ici, c'est moi le patron ». Et ça… Tout le monde attendait ça au PSG. Donc, personne aujourd'hui ne peut dire « oui, c'est trop ». Il est arrivé, il a dit « ici, c'est moi le patron. Il n'y aura personne au-dessus de moi ». Et c'est ce qu'il véhicule dans toutes ses conférences de presse. Moi, j'étais au match à Barcelone. Quand je l'ai vu, je me suis dit « je vois Xavi, il est tendu comme… Lui, il est arrivé, il a perdu 3-2 à l'aller. Il était tranquille. Tranquille, oui, ça va aller. Je voyais les joueurs du PSG. En fait, je pense qu'il a amené cette confiance qui est aussi liée à son ego parce qu'il en a beaucoup. Et c'est normal, il a beaucoup gagné. Et c'est un coach extraordinaire. Maintenant, la réalité de tout ça, c'est que quand vous communiquez comme il communique, quand vous vous comportez comme il se comporte, c'est qu'à un moment donné, le retour de bâton, si ça ne marche pas, il est violent. Mais c'est assumé. C'est tout à fait assumé. Il l'a fait quand il était en équipe d'Espagne. Il a révolutionné l'équipe d'Espagne. Et il n'en avait que faire de ce qui se disait à droite et à gauche.
Ouais,
parce que c'est quelqu'un qui est hermétique à tout. Et je pense que c'est pour ça que je le trouve déroutant. Mais je le trouve séduisant en tant que coach parce que je me dis, lui, il va au bout de ses idées. Et c'est magnifique d'avoir des idées quand t'es coach. Parce que la réalité, c'est ce que je dis à tout le monde. Quand tu tombes, il n'y a personne qui tombe avec toi. Tu tombes tout seul. C'est-à-dire que toi, quand tu tombes, le journaliste qui t'a critiqué, le supporter qui t'a critiqué, le joueur qui t'a pas aimé, il tombe pas avec toi. Toi, tu tombes, tu te fais virer. Et en fait, t'assumes tes choix, t'assumes tes idées de football, t'assumes ton ego, t'assumes ta prise de position. Et c'est ce qui fait de ce joueur... En tout cas, cet entraîneur, un entraîneur passionnant aujourd'hui. Et on le voit avec les médias. Il joue avec les médias, son équipe.
Habib, il lui donne beaucoup de confiance. Et aujourd'hui, il restera l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Voilà. Donc, continuez à hurler, continuez à aboyer. Je serai là. Vous me verrez encore l'année prochaine à cette place.
Il est en route pour un triplé. Donc,
et nous, on va remercier Habib Bey.
Je pensais que c'était Habib Bey qui serait
en
prochaine.
Et nous, on remercie encore Habib Bey d'avoir été avec nous. Merci encore. Radio.
Je suis très content d'être revenu à la maison.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Habib. Et vous revenez quand vous voulez.
Avec grand plaisir.
Porte ouverte. Demain, Café des Sports, n'oubliez pas les cartons. On les attend déjà. Merci.